France Inter.
This is America.
Le 5-7.
This is the greatest country in the world.
Spécial élection américaine.
L'Amérique continuera-t-elle avec Trump ou va-t-elle choisir le plan B comme Biden? C'est jour de vote aux États-Unis. Cette présidentielle ne fonctionne pas comme en France. Le système électoral aux États-Unis est bien particulier. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant permanent de France Inter en Amérique, vous êtes en direct de Washington. Biden face à Trump, il n'y a vraiment que deux candidats en tout et pour tout ?
Ah, c'est bien que vous me posiez la question parce que ça me donne l'occasion de parler un tout petit peu des autres candidats. Non, il n'y a pas que ces deux candidats-là. Dans les 50 États, vous avez une kyrielle de petits candidats qui se présentent. Alors, on avait parlé un temps, par exemple, du rappeur Kanye West, mais qui ne se présente que dans 12 États, c'est dire si il n'y a pas d'enjeu. En revanche, dans les 50 États, il y a aussi un candidat pour le parti libertarien. C'est une femme de 53 ans. Elle s'appelle Jo Jorgensen et elle se présente dans les 50 États. Et puis le Parti vert est présent un peu partout aussi aux États-Unis avec le candidat Howie Hawkins, un Californien de 67 ans. Mais évidemment, avec le système du collège électoral, ces petits partis ne sont pas représentés et finalement ne décrochent pas de grands électeurs à la fin. C'est pour ça qu'on en parle assez peu finalement.
Oui, parce que c'est un suffrage universel indirect. Hein. C'est comme ça que ça marche aux États-Unis.
Oui, vous connaissez ce système et il y a un chiffre magique à retenir, c'est 270. Pourquoi ? Eh bien parce que les Américains votent pour désigner des grands électeurs qui ensuite désigneront le président. Ce collège électoral est composé de 538 grands électeurs. Il en faut donc 270 pour remporter l'élection. Plus un État est peuplé, plus il a de grands électeurs. La Californie, par exemple, en a 55, la Floride en a 29, les plus petits en ont 3, et c'est donc un suffrage indirect. Mi-décembre, les grands électeurs désignent le président, et aujourd'hui, les électeurs votent pour ces grands électeurs.
Et quand un candidat s'impose dans l'État, il rafle tous les électeurs ou il se les partage ?
Alors oui, il rafle tous les électeurs, c'est la règle qu'on appelle ici « winner takes all ». Donc c'est pour ça que c'est très important, si par exemple vous remportez la Floride, vous empochez les 29 grands électeurs. Il y a deux exceptions à ça, deux États où il y a un scrutin proportionnel, mais ce sont des petits États où qui comptent peu de grands électeurs. C'est, sauf erreur de ma part, le Maine et le Nebraska.
Et on regarde notamment, tout particulièrement, les fameux swing states. Il y en a combien environ ? Est-ce que c'est toujours les mêmes ?
Alors, il y en a environ une dizaine. Non, c'est pas toujours les mêmes. Ça dépend évidemment des équilibres politiques en cours. Cette année, je vous conseillerais de surveiller, je sais pas, 5 ou 6 États. Arizona, Wisconsin, Pennsylvanie, très importante. La Floride, j'en parlais à l'instant, qui pourrait éventuellement revenir à Joe Biden. C'est vraiment très serré. Le Michigan et la Caroline du Nord. Voilà à peu près les États qu'il faut surveiller. Pourquoi on les appelle des swing states ? Parce que ce sont des États qui, au fil des élections, tous les 4 ans, peuvent balancer, basculer d'un côté ou de l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle des swing states.
Grégory, vous avez cité la Pennsylvanie. On y va tout de suite, justement, avec notre envoyé spécial à Philadelphie, Farida Noir. Bonjour Farida.
Bonjour Mathilde.
Donc la Pennsylvanie, ça c'est un vrai swing state, un vrai de vrai. Hein.
Ouais, un vrai de vrai. On peut utiliser plein d'autres termes, hein, pour qualifier cet État. On peut dire que c'est un État clé, un État crucial, un État décisif, parce qu'ici, il y a quand même 20 grands électeurs. C'est pas négligeable. La Pennsylvanie, elle a été remportée il y a 4 ans par Donald Trump. Il a arraché ce bastion aux démocrates vraiment dans un mouchoir de poche, avec seulement 44 000 voix d'écart. C'est rien, c'est moins qu'un point d'avance. Drama donc à l'époque pour les démocrates il y a 4 ans. Donc les candidats pour cette campagne, ils ont mis les bouchées doubles pour cet État du Nord-Ouest, capitale donc dans la victoire finale. Ils ont multiplié les déplacements ici. D'ailleurs, Joe Biden, il en a encore de prévus aujourd'hui pour toujours marteler le même message. Chaque voix compte. Le candidat démocrate qui aime bien aussi se mettre en avant en disant qu'il est un gars du pays, qui est né à Scranton. Si nous gagnons la Pennsylvanie, c'est fini, dit de son côté son rival Donald Trump. Alors pour l'instant, les sondages ici, donc donne l'avantage aux candidats démocrates, mais avec seulement 5 points d'avance. Donc c'est vraiment pas beaucoup et ça n'augure pas d'une victoire assurée pour le moment.
Et ça se joue sur quoi ? Quels sont les thèmes porteurs ? Quels sont les enjeux en fonction du profil des électeurs dans cet État ?
Alors, il faut savoir, Mathilde, que la Pennsylvanie, c'est un État à forte population ouvrière. Et Biden, ben, il veut récupérer les votes de ces cols bleus qui ont échappé aux démocrates il y a 4 ans. Alors, si les grandes villes comme Philadelphie, où je me trouve, ou Pittsburgh, eh ben, elles sont acquises au vote démocrate, c'est plus compliqué dans les zones rurales où il y a une base républicaine qui est quand même plutôt solide. Et ces électeurs, ben, quand ils entendent, par exemple, Biden dire qu'il veut mettre fin aux énergies fossiles comme le charbon, eh ben, beaucoup de mineurs, pour beaucoup de mineurs ici, bah, c'est impossible de voter pour un candidat qui va leur faire perdre leur job. Alors que Trump, lui, ben, il continue à surfer sur sa promesse de relancer l'économie de ces énergies fossiles, économie qui décline. Et puis en revanche, il y a une chose sur laquelle les deux candidats, eh bien, s'accordent, c'est l'extraction du gaz de schiste qui a redynamisé l'économie de l'État. Et Biden sait que s'il dit qu'il est contre le fracking, c'est presque, j'ai envie de vous dire, suicidaire. Puis s'il me reste un petit peu de temps, Mathilde, un petit mot sur le vote anticipé.
Alors vraiment 10 secondes.
Allez, rapidement, juste pour préciser que sur 9 millions d'électeurs, il y en a quand même plus de 2,4 millions qui ont déjà voté, c'est 10 fois de plus qu'en 2016. Mais la Pennsylvanie commencera seulement à dépouiller ses bulletins à partir d'aujourd'hui et la Cour suprême lui donne jusqu'au 6 novembre pour tout compter.
Farida Noir en direct de Philadelphie en Pennsylvanie, on met le cap au sud, direction le Texas et sa capitale Austin. Bonjour Valentin Dunat.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous.
Alors le Texas, ça c'est un État, c'est pas un swing state, hein, c'est un État qui a toujours voté républicain, mais cette fois-ci il y a un petit doute.
Gros doute même, parce que c'est vrai que qui dit Texas dit chapeau de cow-boy, George Bush, républicain. Et ça se concrétise, hein, vous l'avez dit, dans les urnes depuis 44 ans, pas une victoire démocrate depuis 1976. Sauf que cette année, les deux candidats sont au coude à coude sur l'un des sites de référence 538, j'ai regardé tout à l'heure. On voit que Trump a 63% de chances de l'emporter, il a une très légère avance, mais sur un autre site, Morning Consult, j'ai regardé tous les états, partout. Ce site donne des résultats. Et au Texas, il n'y a pas de résultat, il y a un mot, trois lettres, tie, serré. Il y a donc ces sondages, mais aussi la tendance de ces dernières années. La dynamique est clairement favorable aux démocrates. Ils sont toujours derrière, mais ils rattrapent peu à peu leur retard.
Et comment se fait-il que cet État pourrait basculer ?
Plusieurs explications. D'abord, la participation record, Farida vous en parlait il y a quelques secondes. Là, au Texas, c'est hallucinant. Avant même le jour du vote, aujourd'hui, il y a 10 millions de Texans qui ont déjà voté de manière anticipée. C'est largement plus que le résultat global de 2016. Et selon les experts, la hausse de la participation, c'est plutôt favorable en fait aux démocrates. Et la deuxième explication qui va avec la première, c'est la croissance démographique de cet État, les changements sociologiques qui vont avec. Pour faire simple, je ne vais pas vous donner 110 000 chiffres, un seul pour comprendre cet état. Il y a 1 000 personnes qui arrivent chaque jour au Texas. Et ces nouvelles personnes, ce sont des jeunes attirés par la qualité de vie, notamment ici à Austin. C'est super sympa, Austin. Il y a des universités, des parcs, des grosses entreprises, des quartiers branchés. C'est une ville pas chère en plus. Donc il y a ces jeunes, mais aussi des personnes ici, des minorités. Et tous ces gens-là, eh ben, ils votent massivement et ils pourraient faire basculer l'élection au Texas.
Merci Valentin Dunat, en direct du Texas. Je m'adresse de nouveau à vous, Grégory Phillips. Une dernière question. Les Américains ne se déplacent pas seulement pour élire leur président, il y a d'autres élections en même temps.
Oui, alors il y en a une vraiment très importante, c'est celle au Sénat, parce que les Américains sont appelés à renouveler un tiers du Sénat, 35 sièges de sénateurs, ainsi que la totalité de la Chambre des représentants. Mais vraiment, il va falloir surveiller ce qui se passe au Sénat, parce que si Biden l'emportait, c'est très important pour lui aussi que les démocrates reprennent le contrôle du Sénat, qui est aujourd'hui à majorité républicaine. Et c'est un enjeu capital, tant on sait que en matière de politique américaine, le rôle du Sénat est très important. Et puis aussi, on va renouveler des gouverneurs. Il y a des référendums locaux, par exemple, ici à Washington. On va voter pour ou contre la légalisation des plantes psychotropes.
Et on va surveiller tout cela de très près avec vous, avec tous les envoyés spéciaux aux États-Unis, avec nos invités. France Inter consacre 2 jours à cette élection américaine, France Inter à l'heure américaine.